La résurrection de Jésus est un événement, et on pourrait dire, marquant. Je pense que vous êtes d'accord avec moi.
Oui.
Jésus-Christ est ressuscité, nous le croyons, nous sommes sûrs qu'il est vivant aujourd'hui. C'est quelque chose de fort et même d'indispensable pour nous, chrétiens, et pour d'autres aussi. Mais pourtant, c'est quand même un événement qui mérite des explications et il nous faudrait aujourd'hui en parler. Que pouvez-vous nous dire sur la résurrection ?
D'abord que c'est un événement essentiel. Il est essentiel parce que l'histoire de l'humanité a en quelque sorte un avant et un après. Il n'y a eu qu'un seul homme qui soit ressuscité et ensuite qui ne soit pas mort. C'est Jésus. Et cet événement est marquant dans l'histoire parce que on voit par exemple dans l'histoire des empires à quel point les empires ont été touchés, marqués, influencés par l'événement, la résurrection, et de ce fait par la personne et l'enseignement de Jésus-Christ, et de ce fait par le christianisme. On se souvient qu'en France, le code civil provient pour beaucoup, pour l'essentiel, de valeurs chrétiennes et de valeurs qui régissent les bons fonctionnements d'une nation. La résurrection est donc un événement marquant, parce qu'on pourrait dire que si Jésus n'était pas ressuscité, alors ses propos seraient des propos importants, des propos vrais, mais des propos gentils, comme ceux de Gandhi ou de tout homme politique ou philosophe important. Jésus étant ressuscité, il porte avec lui la marque de l'approbation de Dieu et la marque du Fils de Dieu.
Oui, s'il n'était pas ressuscité, évidemment, ça n'aurait aucun sens pour notre vie. Ça a justement donné un sens à la vie du chrétien, la résurrection. Mais du moment qu'il a ressuscité, il est vivant. Voilà. Tout à l'heure, au début de votre explication, vous avez l'air de prendre deux options là. Non, il est ressuscité, donc il est vivant.
Il est vivant, ça ne fait pas de doute.
Ça ne fait pas de doute, bon, on est d'accord.
J'ai dit qu'il était ressuscité pour ne plus mourir après.
Voilà, pour ne plus mourir, d'accord.
Donc, notre Dieu est un Dieu vivant et notre Dieu nous a rejoints dans notre humanité alors qu'il nous a appelés à être humains à son image. Et donc, il nous montre par la résurrection que les choses ne s'arrêtent pas à la mort, que nous sommes faits pour vivre, que vivre c'est excellent et qu'il nous appelle à la vie éternelle, mais que finalement, s'il y a la mort aujourd'hui, c'est parce que la mort est en quelque sorte là pour limiter le temps dans lequel nous avons des difficultés, tant d'éloignement à Dieu, tant d'égarements, d'erreurs que nous faisons, de conflits familiaux, sociaux, etc. Et donc la mort est en quelque sorte une grâce pour limiter ce temps de difficulté. La résurrection est là pour dire, après ce temps qui nous apparaît une étape terminale dans notre société aujourd'hui, eh bien, il y a la vie éternelle et c'est à nous de tenir compte de cette vie éternelle parce que Jésus est ressuscité.
Il y a une vie après la mort. Voilà.
Voilà. Ouais.
Alors, quels sont, disons, les enjeux ? Qu'est-ce que ça veut dire, ressusciter exactement ?
Ressusciter, ça vient du grec. Il y a deux mots grecs qui sont utilisés dans le grec du Nouveau Testament, de la Bible. Le premier, c'est anastasis. Ana, c'est à nouveau, et stasis, c'est la station. Autrement dit, ressusciter, c'est se tenir à nouveau debout.
Oui.
Et puis, il y en a un deuxième qui est egeiro, qui veut dire tout simplement se réveiller. Il y a une très belle expression dans différents passages, mais par exemple dans 1 Timothée 4, dans 1 Thessaloniciens 4, cette expression, ceux qui sont endormis par Jésus, ceux qui sont morts dorment. Autrement dit, ils ont cessé leur activité ordinaire de l'homme et de la femme, de l'humain, activité de construction, activité d'expérience, activité avec Dieu ou sans Dieu, et ils se reposent. Mais quand ils vont ressusciter, ils sortiront de leur sommeil, ils se réveilleront, et là ils rentreront dans quelque chose de définitif, soit de définitivement bon avec Dieu, soit définitivement sans Dieu, ce qui à mon sens est terrible.
Certainement. Et on peut donc reprendre l'expression « oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père ».
Voilà.
Voilà. Ce sera donc un mouvement, une nouvelle dynamique, effectivement. Alors, les questions qui viennent tout de suite à l'esprit, justement, vous avez commencé peut-être à en parler, mais ça demande un approfondissement. Qu'y a-t-il après la mort ? Je meurs, je dors, je me repose, et puis, un jour, je vais me réveiller.
La Bible est non pas très explicite, mais raconte des choses. Elle dit par exemple que tous les morts vont dans ce qu'elle appelle le séjour des morts, en hébreu le Sheol.
Oui.
Et dans ce séjour des morts, on le voit dans l'évangile de Luc au chapitre 16, il y a les morts bienheureux et les morts malheureux. Et il semble que dans ce séjour des morts, les morts bienheureux et les morts malheureux se voient. Mais les morts malheureux savent déjà qu'ils sont malheureux et qu'ils ne peuvent pas aller avec les bienheureux. Là où apparemment ceux qui sont bienheureux n'ont pas les problèmes des malheureux.
Je vais vous poser une question qui va vous paraître bizarre. Si je suis un mort bienheureux, ce que je souhaite, si je vois un mort malheureux, je vais pas être complètement heureux, non ?
Si, parce que le mort bienheureux et le mort malheureux auront la destinée qu'ils auront choisie. Alors, je crois que respecter quelqu'un, c'est respecter quelqu'un quand il se trompe.
Oui.
Et du coup, je regarderai au mort malheureux comme quelqu'un qui aura choisi cette destinée-là. Aujourd'hui, par exemple, quand je parle de Jésus-Christ à 100 personnes dans la rue, il y en aura en France, et notamment à Aix-en-Provence, là où j'habite, 95 qui vont me dire « Écoutez, fichez-moi la paix, j'ai pas le temps. »
Oui.
Et donc, ces gens-là travaillent à leur destinée. C'est leur responsabilité.
Alors, en fait, dans l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a eu d'autres résurrections ? Bon, dans les Nouveaux Testaments, il y a Lazare, mais est-ce que c'était vraiment la même chose ?
Dans la Bible, il y a 7 résurrections qui nous sont montrées. Je crois qu'il y en a 3 dans l'Ancien Testament et 4 dans le Nouveau, à moins que ce soit l'inverse. Mais ce sont des résurrections de personnes qui vont mourir après. Alors que la résurrection de Jésus,
oui, après,
ce n'est pas la même.
Bien sûr.
Par exemple, Lazare, et même dans l'évangile selon Jean, appelé Lazare le mort. Oui. Ça devait avoir touché les gens qu'il avait vu mourir et qu'il voyait maintenant en vie. Mais Lazare n'est pas quelqu'un qui a été gardé par l'histoire comme étant ressuscité, puisque les gens l'ont vu mourir à nouveau. Cette personne-là, Lazare, finalement, il est mort 2 fois.
Oui, alors il s'est réveillé en fait, mais c'est tout. Et puis il n'en a jamais parlé, donc il n'avait aucune mémoire de son séjour chez les morts.
C'est ça.
Parce qu'il est resté quand même 3 jours au moins, non ?
Il est resté, il me semble, au moins 4 jours.
Au moins 4 jours. Ouais. Donc là, c'est l'amnésie totale.
Oui.
C'était fait exprès, je pense, non ?
Ou alors il a fait exprès de ne pas en parler.
Ou il a fait exprès de ne pas en parler. Bon, ouais. Le résultat a été le même. Donc, pour nous, c'est un enjeu important. On sait donc qu'après notre mort, on sera appelé à revenir. Et alors, qu'est-ce qui se dit ? Tout à l'heure, vous parliez de « je poserai la question dans la rue à Aix-en-Provence sur Jésus-Christ » de la résurrection. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait ? Qu'est-ce qu'on entend dire ?
Oh, on me dira, mais personne n'est jamais revenu des morts. Hein, on me dira, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé. De toute façon, ça fait tellement loin, ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'on ne peut plus savoir, on ne peut pas le vérifier. Et puis bon, bien sûr, oui, si on faisait des recherches, oui, c'est vrai qu'il y a plus de manuscrits sur la Bible que sur la guerre des Gaules. Hein, 5000 manuscrits pour la Bible et 20 manuscrits pour la guerre des Gaules de César. Mais voilà, je reste sceptique. Voilà des réactions, il y en a autant que de personnes finalement.
Oui, alors il y a quand même une question, une réponse à votre question qui serait peut-être un peu plus délicate, c'est lorsqu'on vous répondrait, la résurrection de Jésus, c'est un mythe, ça a été inventé par ses disciples. Or, est-ce que vous croyez que c'est possible ? Qu'est-ce qu'ils auraient gagné, ces disciples, à inventer une chose pareille, alors qu'après, ils l'ont proclamé, ils ont été persécutés, il y a eu des tribulations dans leur vie, et parfois, quelques-uns en sont morts pour annoncer ça. Donc, ça ne peut pas être les disciples qui aient imaginé ce scénario.
C'est pour ça que la question du mythe, à mon avis, ne peut pas se poser. D'ailleurs, dans les livres religieux, il y a certains mythes, mais ces mythes aboutissent toujours sur un comportement moral.
Oui.
C'est-à-dire, en fait, parce que l'ange a dit ceci, ou parce que Krishna a dit ceci à Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui est un des documents des Upanishads, qui sont les livres des hindous. Il y a donc un mythe, et c'est certain que c'est un mythe, mais ça propose aux personnes d'avoir un comportement qui les honore. Mais dans la Bible, ce n'est pas pareil. Dans la Bible, on est en relation avec une personne, et cette personne est morte et ressuscitée. Alors là, on ne nous appelle pas à un comportement, on nous appelle à rencontrer finalement celui qui est ressuscité. D'où oui. L'importance historique.
Et donc, on en parlera tout à l'heure, justement, de l'histoire avec un grand H. Nous restons sur notre trottoir, micro-trottoir. Et par exemple, vous pouvez entendre, oui, je crois que Jésus est ressuscité, mais je ne sais pas qu'en penser. Alors en fait, on ne sait pas qu'en penser, parce qu'évidemment, ça dépasse l'entendement. Vous êtes mort et on redevient vivant. Donc pour le croire, c'est un acte de foi.
C'est aussi un acte de logique ou de détermination. Quand on se place au soleil, on a chaud. Quand on se place devant Dieu, on reçoit, on comprend. Et c'est cette position de foi, comme vous dites, que Dieu honore, et non pas le fait de s'endoctriner et de se bourrer la tête avec des concepts aussi élevés soient-ils. Je crois que les gens qui disent « je ne sais pas qu'en penser » sont quand même souvent des gens qui sont un peu négligents ou paresseux.
De cet événement marquant, comme je disais au début, on en a parlé, même à l'époque de Jésus. Au début de l'ère chrétienne, Jésus était donc un juif qui était marginal, qui dirigeait un mouvement marginal dans une province marginale de l'Empire romain et dont les moyens de communication étaient, pour ainsi dire, inexistants. C'est certain qu'actuellement, ça se passerait certainement d'une autre façon. Mais quand même, de ce Jésus, on en a parlé, des historiens de l'époque en ont parlé.
Je crois qu'aujourd'hui, à l'ère du téléphone portable, d'Internet, de Facebook, d'autres choses extraordinaires, qui fait qu'avec un petit téléphone, on peut être dans la rue et voir ce qui se passe à Jérusalem en temps réel, on n'imagine pas bien que dans ce premier siècle de l'ère chrétienne, Jérusalem est une petite ville de l'immense province syrienne de l'immense empire romain. Autrement dit, entre Jérusalem et Rome, allez, je vais dire une grosse approximation, il y a peut-être 4000 km, 4-5000 km, je ne sais pas bien, hein, voilà, peu importe. Autrement dit, pour que les informations aillent de Jérusalem à Rome, il faut quand même du temps. Hein, on y va par bateau,
oui,
hein, essentiellement. Et par bateau, il y a des tempêtes. On n'est pas sûr que les... Bon, bien sûr, la plupart des bateaux arrivent, mais enfin, il y a quand même des tempêtes. Il y a des saisons aussi. Et je trouve assez extraordinaire de penser que dans ce premier siècle, il y a des gens qui sont connus, qui sont éminents. Je cite simplement Tacite, un historien romain qui était gouverneur de l'Asie, hein, cette grande province qui est au-dessus de la Syrie, on pourrait dire en Turquie actuelle. Il a écrit donc dans ses annales, il a décrit la persécution des chrétiens, chrétiens avec le mot Christ. Hein, je cite Suétone, un historien romain qui a vécu jusqu'à environ 150 et qui a était l'auteur des annales de la maison impériale. Et donc, il écrit que les Juifs provoquent continuellement des troubles à l'instigation de Christos, Christ.
Oui.
Hein, toujours cette même personne. Le même Suétone parle des chrétiens, les Christiani, et de leur nouvelle et nuisible superstition. Pline le Jeune, qui était proconsul en Bithynie, donc en Asie mineure, au bord occidental de la Turquie, Il écrit à Trajan et il demande un peu qu'est-ce qu'il faut faire avec ces Juifs. Et puis l'historien éminent, c'est Flavius Joseph, et qui a écrit
historien juif.
Un historien juif, mais qui était à la solde des Romains, hein, puisque en fait, à la destruction de Jérusalem, à la prise de Jérusalem sous l'empereur Vespasien et Partitus, qui était un général, il a en quelque sorte été collabo avec les Romains, lui qui était juif. Et donc, il a écrit l'histoire des Juifs et l'Antiquité judaïque. Et non seulement il a parlé de la vie du Christ, de sa mort, mais aussi de sa résurrection.
Oui, donc il y a eu des traces dans l'histoire de l'époque, hein, de ce Christ, de ces chrétiens qui, à la limite, bon, étaient parfois persécutés pour ce qu'ils pouvaient vivre et dire.
Et la question que je me pose, c'est que cet homme qui était Jésus, d'accord, il n'y a que Flavius Joseph qui ait parlé de sa résurrection, mais pourquoi les autres ont-ils parlé de sa personne, si vraiment il n'y avait pas un événement aussi important que l'événement de la résurrection?
Oui, et qui a suscité quand même donc ce mouvement des chrétiens. Donc, ils admettaient que les chrétiens donc vivaient leur vie de chrétiens parce qu'il y a eu une résurrection, un événement, même s'ils ne le citaient pas. Pour eux, ils avaient politiquement à régler ces problèmes-là, mais la source de ce mouvement peut-être leur importait peu, je suppose. Hein. Et puis plus tard, les premiers chrétiens, après les premiers chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé historiquement?
Alors on voit tous ceux qu'on appelle les pères de l'Église, hein, des gens qui ont écrit, et puis on pourrait en citer beaucoup. En tout cas, dans les noms très connus, il y a Ignace d'Antioche, cette personne qui a écrit sept lettres à différentes personnes et aux églises, alors qu'il allait être martyrisé à Rome. Et donc, il a dit, c'est en réalité qu'il fut crucifié, non en apparence, non en imagination, non en tromperie. Il mourut réellement, il fut enseveli et il est ressuscité des morts. Il a écrit ça entre 110 et 115.
Et à la veille de sa propre mort.
C'est ça.
Donc, il fallait qu'il y croie formellement.
Il fallait qu'il y croie.
pouvoir le dire jusqu'au dernier moment, oui. Puis il y a eu Justin, peut-être.
Voilà, donc Justin, qu'on a appelé aussi Justin Martyr, qui était un père apologète, c'est-à-dire qui défendait la foi auprès des grands, auprès des politiques, des empereurs. Et donc, dans ses dialogues avec Tryphon, il en a parlé. Il y a eu Tertullien, puis il y a eu quantité d'autres personnes dont on pourrait dire aujourd'hui que, pour les historiens agnostiques, ces personnes-là ne sont pas des observateurs
directs
suffisants,
oui.
En tout cas, parce que, vu qu'ils sont chrétiens, ils ne sont pas objectifs. Mais on pourra toujours leur rétorquer que les non-chrétiens ne sont pas plus objectifs.
Hein,
pour le regard sur l'histoire, peut-on avoir un regard objectif sur l'histoire dans la mesure où on est toujours impliqué comme ceci ou comme cela?
Alors aujourd'hui, que penser de la résurrection? Quels sont les éléments qui nous font adhérer à la thèse du Christ mort et ressuscité? Il y a eu les textes bibliques, hein, effectivement, qui sont des gages d'authenticité. C'est homogène entre le même événement est raconté d'une façon différente, mais il y a le même sens. C'est aussi crédible. Et puis, il y a aussi d'autres sources.
Je dirais que dans les sources qu'on appelle externes, il y a des adversaires. Mais ces adversaires sont toujours, me semble-t-il, dans ce que j'ai pu lire, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même lu quelques documents. Par exemple, dans les premiers adversaires du christianisme, les gnostiques,
oui.
Il n'y a pas de polémique concernant la résurrection de Jésus. Non, on n'en parle pas. On est plutôt dans l'élaboration d'un autre système de pensée plutôt que dans la réfutation d'un événement qui aurait pu être.
Et en tout cas, ils n'ont pas de preuves de supercherie.
Non. Et par exemple, je n'ai pas vu d'ouvrage qui soit directement orienté par les Juifs contre la résurrection de Jésus. Je trouve qu'à cet égard, c'est plutôt le grand silence. Et ce grand silence, me semble-t-il, est une sorte de preuve qu'il n'y a pas de supercherie. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas une preuve en soi non plus.
Oui, et Jésus qui était quand même connu, Dieu sait s'il a bougé les foules, le peuple et aussi, disons, les gens de pouvoir du temple ou de l'administration romaine, ne pouvait pas quand même disparaître comme ça et se cacher sans être reconnu dans un petit pays comme la Palestine d'alors.
Si on regarde l'essor de la foi chrétienne, où on sait que en Gaule, en 177, c'est Irénée qui était de Smyrne, donc d'Asie mineure, qui est venu en Gaule pour être évêque. Donc ça veut dire que 150 ans après Jésus-Christ, il y a un essor considérable. Venir en Gaule, c'est très très loin.
Oui.
Et donc, pour qu'il y ait eu un essor pareil, il me semble que cet essor-là ne peut pas être simplement le fait d'un dogme non authentifié par l'événement que ce dogme présuppose. C'est un peu compliqué, mais je le répète. Dans l'islam, il y a un dogme, mais ce dogme-là ne repose pas sur un événement. Dans l'islam, il faut obéir à Dieu, et il faut le craindre. Donc c'est un dogme. Mais le dogme chrétien repose sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Autrement dit, le dogme chrétien repose sur l'événement. S'il n'y avait pas eu l'événement, je ne comprends pas bien que le dogme et toutes les implantations du christianisme et des églises se soient fait aussi loin et aussi rapidement.
Oui, et puis pour reprendre l'idée que j'avais émise tout à l'heure, Jésus vivant, compte tenu du développement du christianisme, n'aurait pas profité de cette notoriété, de ce développement, alors que tout reposait sur lui.
Donc, je dirais même au contraire qu'il aurait fallu qu'il se cache.
Et oui. Donc,
donc son dogme n'aurait pas tellement eu d'impact.
Très important.
Il y a une autre chose aussi, c'est que l'Église a été persécutée.
C'est l'élément peut-être le plus important, cette persécution.
Il y a la persécution commence sous Néron, qui est un empereur qui a régné entre environ, je ne me souviens pas exactement des dates, mais 54 et 68, je crois que c'est ça, après Jésus-Christ. Une des premières grandes persécutions a lieu sous Néron, quand Rome est affaiblie, quand finalement il faut détourner la colère du peuple contre l'empereur, et la détourner vers les chrétiens. Mais il y a d'autres persécutions qui viennent après, sous Dioclétien, sous Trajan au début du IIe siècle, sous Septimius Sévère, etc. Je ne les connais pas toutes. Et il me semble que ces persécutions sont vraiment la marque de quelque chose d'important. Bien sûr, il y a des massacres. Hein, il n'y a pas longtemps, on a vu le massacre des Tutsis et des Hutus, au Rwanda. On a vu des génocides, hein, les génocides juifs, le génocide arménien, etc. Mais on peut dire que ces massacres, ces génocides viennent toujours de quelque part. Mais là, les persécutions des chrétiens viennent quand même du fait que la foi chrétienne dérange. Elle s'oppose dans un sens à la politique des empereurs. Et de ce fait, il y a des persécutions qui vont contre ceux qui s'opposent à la politique des empereurs. Là aussi, il y a une marque de vraisemblance de la notoriété de Jésus et qui fait que des gens ont pu aller vers la persécution, aller vers cette fin de martyr comme ils l'ont fait.
Alors il y a le tombeau qui était vide, Jésus a été vu par de nombreux témoins, le Nouveau Testament a été écrit pour relater donc cet événement. Et puis il y a quelque chose aussi de peut-être très important et auquel on ne fait pas toujours attention, c'est que après cette résurrection du dimanche de Pâques, le jour sacré traditionnel du sabbat qui était le samedi est passé au dimanche. Et ça a pris corps, puisque c'est encore maintenant le dimanche, le premier jour de la semaine pour nous.
Et ça a pris corps, effectivement. Et voilà dans l'histoire quelque chose, un élément concret, en quelque sorte une preuve. Et c'est vrai que le dimanche, c'est le jour de la résurrection, c'est le premier jour de la semaine, en quelque sorte comme si dans le temps pendant lequel la loi agissait, la loi de Moïse, eh bien, on travaillait six jours, Et le septième jour, on se reposait ou on engrangeait, on faisait un peu les provisions. Autrement dit, on commençait par travailler, et ensuite on se reposait. Alors que l'œuvre de Jésus venant, c'est complètement différent. On commence par se reposer le premier jour de la semaine, et ensuite on va travailler six jours, mais finalement dans la dynamique de l'œuvre de Jésus-Christ.
Jésus ressuscité, eh bien, plusieurs témoins l'ont vu. Mais ce qui pose aussi quand même un problème, c'est que, à premier abord, ces témoins ne l'ont pas reconnu. Marie-Madeleine a cru que c'était un jardinier. Les apôtres ont pensé que c'était un fantôme. Les voyageurs d'Emmaüs ont pensé que c'était un voyageur comme un autre, et il leur a fallu un signe où Jésus les appelle, les interpelle pour qu'ils le reconnaissent. Alors, est-ce que ça veut dire que son apparence n'était pas tout à fait la même ?
Je vois là deux raisons essentielles. La première, c'est la suivante. Si vous et moi, Pierre, mettons quelqu'un au tombeau le vendredi, et que le dimanche, on va se promener dans l'après-midi et on le rencontre. Est-ce que vous pensez qu'on le reconnaîtra ? Personnellement, je pense que non.
Oui, oui, j'en doute, effectivement. Voilà.
Une deuxième raison, c'est que le supplice auquel Jésus-Christ a été confronté, le supplice qu'il a subi, est un supplice infâme. Ce n'est pas le supplice qui fait forcément le plus mal, mais c'est un supplice infâme. Et c'est un supplice dans lequel, à cause de la douleur des clous qui sont plantés dans les pieds, dans les mains, ou dans les poignets, ça dépend où est-ce qu'on les met, on passe le temps à tirer sur les mains et à pousser sur les pieds. Et si vous voulez, les muscles se distendent, et on meurt par étouffement, parce qu'en fait, les muscles finissent par se descendre et tout le poids de la cage thoracique fait qu'on ne peut plus respirer, on étouffe. Mais Jésus n'est pas mort d'étouffement, Jésus est mort parce qu'il a donné sa vie. Avant de mourir, nous dit l'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 15, il a poussé un grand cri. Et il est même dit que quand le centurion a vu comment Jésus était mort, il a dit, mais certainement, celui-ci était fils de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que Jésus a passé 6 heures sur la croix. Et on peut imaginer que sur son visage, il y avait la marque des souffrances de ce qu'il a enduré. Pendant 6 heures d'être torturé, avant il a été fouetté, hein, il a été humilié par les soldats, il a porté sa croix. Je pense que Jésus ressuscité avait un visage reposé. Alors que le Jésus mort avait un visage anéanti. Voilà deux raisons. Le fait que ses disciples l'avaient enterré et qu'ils ne croyaient pas à sa résurrection. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, l'homme qu'ils avaient mis dans le tombeau était, mais n'était quand même pas, n'avait pas la même apparence que l'homme qui est ressorti, parce que c'était un homme glorifié, un peu, et même tout à fait, ce que nous serons, nous, quand nous irons à la rencontre de Jésus dans les airs et que nos corps deviendront glorifiés, alors nous aurons notre âge de raison, notre âge de vigueur, toutes nos forces, toute notre beauté, etc.
Oui, alors autre chose encore au niveau du corps, c'est un corps de la résurrection, est physique, elle est véritable, elle est corporelle, mais disons, Jésus passe à travers les portes, à travers les murs.
Alors Jésus est passé à travers les murs après la résurrection, donc au chapitre 20 de l'évangile selon Jean, mais Jésus a fait quantité de miracles avant la résurrection. Il a marché sur les eaux, etc. Donc je ne crois pas qu'on puisse forcément lier le miracle au changement corporel, mais bien plus le mettre au bénéfice de la divinité de Jésus-Christ, qui finalement était Seigneur sur toute chose.
Oui. Alors, et ces enjeux pour nous de cette résurrection, bon, c'est essentiel. On croit que Jésus est mort et ressuscité. D'abord, effectivement, donc, un homme qui était mort connaît maintenant la vie éternelle. Ben, nous sommes invités, nous aussi, à savoir que après la mort, il y a une vie et qu'on connaîtra donc une éternité, c'est évident. Mais il y a aussi autre chose quand même, parce que cette mort, ce n'est pas une mort naturelle, vous avez décrit le supplice, c'est un sacrifice.
L'enjeu de la résurrection, c'est que, de manière assez carrée, Jésus est vivant aujourd'hui pour dire « J'ai expié les fautes de ceux qui se confient en moi. » Jésus ressuscité, autrement dit, il est vivant. Et s'il est vivant, il est en quelque sorte vivant pour nous dire aujourd'hui « La colère de Dieu n'est pas sur toi. » Comme il le dit en Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils désobéit à Dieu et la colère de Dieu demeure sur lui. » Voilà donc un premier enjeu. On pourrait dire que Jésus a par sa mort lavé notre passé coupable, mais par sa résurrection, il est la preuve manifeste de notre justice, de sorte que quand moi j'irai me présenter devant Dieu, Dieu me verra au travers de l'œuvre de son Fils, puisque je lui donne aujourd'hui ma confiance à cet égard.
Oui, et disons, cette résurrection est peut-être aussi le point final de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que, bon, c'était prévu qu'il allait donner son Fils pour qu'il sauve les hommes, et effectivement, et donc nous soyons justifiés, nous soyons sauvés, lavés de tout péché. C'est, disons, ça y est, pour lui, son plan s'est réalisé.
Oui, à nous donc de comprendre à quel point Dieu est souverain, à quel point Dieu connaît toutes choses à l'avance, à quel point, par exemple, dans le psaume 16, un psaume qui a été écrit par David, qui a vécu environ 1000 ans avant Jésus-Christ, il a écrit « Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption ». Autrement dit, il a déjà envisagé que Jésus, puisque David est dans son tombeau, il a envisagé que Jésus ressuscite. Et ce psaume 16, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle un psaume messianique qui parle du Christ, de Jésus. Donc la résurrection est quelque chose qui est envisagé par Dieu depuis toujours et il est dans l'accomplissement de son plan, Dieu est souverain à nous dire entrer. Maintenant, cette rencontre, nous pouvons aussi, en quelque sorte, la préparer. Ce n'est pas parce que Jésus a tout fait qu'il ne nous demande pas de faire quelque chose.
Oui, bien sûr. C'est tout simplement, donc, ça implique une notion de choix de notre part.
Le choix de mettre en œuvre ce qui relève de la résurrection. Autrement dit, la puissance. La puissance de quoi ? Jésus est vivant. Cela donc veut dire qu'il est vivant pour nous parler aujourd'hui. Si quelqu'un pense que Jésus ne lui parle pas, eh bien qu'il l'écoute, qu'il l'appelle, qu'il lui montre concrètement qu'il lui fait confiance, qu'il se place dans une situation qui fait qu'effectivement, il peut l'écouter. Jésus est vivant, cela veut dire aussi que Jésus peut nous consoler des difficultés, que Jésus peut nous donner la force pour envisager comment franchir telle ou telle circonstance, que Jésus peut nous donner du recul sur les choses. Si Jésus ne le fait pas, il est ressuscité. Donc peut-être qu'il veut que je reste un peu de temps dans telle ou telle circonstance pour comprendre, pour réfléchir, pour réagir, pour faire l'expérience de quelque chose. Autrement dit, le fait que Jésus soit ressuscité m'engage terriblement. Dans la mesure où je le crois, alors je suis avec un Jésus-Christ vivant et un Jésus-Christ qui est là pour intervenir dans ma vie.
Oui, mais s'il y a une notion de liberté pour l'homme, vous croyez, vous êtes chrétien, vous adhérez, mais certains peuvent se dire, bon, bah, il faut croire, oui, peut-être, mais bon, mais ne pas ensuite quand même suivre Jésus. Il ne suffit pas de dire, oui, je crois. Il faut quand même que ça se traduise par des actes dans la vie. Hein. Donc, je crois que l'homme est quand même libre de choisir ou pas.
Vous voulez dire par là que dans la mesure où Dieu savait tout d'avance, où Dieu est souverain, comment est-ce que je fais moi pour dire, ben voilà, j'achète un micro sans fil ou je vais enregistrer un jeudi après-midi, où est ma part de choix par rapport à la souveraineté de Dieu? Alors ça, c'est quelque chose qui s'inscrit bien dans cette réflexion sur la résurrection, puisque Jésus est vivant, puisque Dieu parle et se révèle. Alors moi, je peux être à son écoute, je peux en quelque sorte l'accueillir dans mon être et faire l'expérience d'une pensée qui va mûrir, qui va progresser, qui va s'élaborer, que j'élaborerai avec l'aide de Dieu, avec la personne de Dieu étant en relation avec lui, mais aussi avec la connaissance de Dieu, puisqu'il donne l'intelligence, il donne la sagesse, et de ce fait, je vais pouvoir décider de quelque chose. Ce que je le dis parce que je l'ai compris aujourd'hui. Mais dans 10 ans, j'aurai compris beaucoup plus de choses. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, j'entre dans cette compréhension des choses qui me fait finalement honorer Dieu dans la relation avec laquelle, dans laquelle je suis actuellement et dans la confiance que je lui donne. C'est ça ma liberté, mais ma liberté avec un Dieu qui est vivant.
Donc ce qui a été possible pour le Fils le sera aussi pour les hommes. Donc, on fait confiance, on fait nos choix en tant que responsable.
Oui, tout à fait. Il y a un verset dans cette lettre adressée par Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, 23, qui dit que Jésus-Christ, c'est les premiers fruits de la résurrection. Et il y aura 3 étapes dans la résurrection. Le premier rang, c'est ce qui s'est passé il y a environ 2000 ans. Le deuxième rang, c'est que tous les chrétiens ressusciteront quand Jésus viendra prendre l'Église et que adviendra, l'Église n'étant plus là, l'Antichrist pendant cette période de 3 ans et demi. Ensuite, il y aura un troisième rang qui sera la résurrection de tous ceux qui seront finalement morts sans Dieu et qui iront pour le jugement dernier. Et donc, la Bible voit cette résurrection comme étant un seul événement, mais qui se feront à des étapes différentes. Et nous participerons tous à cette même résurrection, et on pourra même insister sur le fait que notre corps de ressuscité sera à l'image de notre corps, mais dans tout ce qu'il aura de glorieux et d'efficace.
la base fondamentale du christianisme, c'est donc la résurrection. Nous sommes d'accord. Hein, évidemment, mais qu'est-ce que c'est qui fait ressusciter ?
Eh bien, c'est une question très importante à laquelle on ne peut pas tellement répondre. Jésus dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus dit, moi, je suis la vie. Et c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui l'enlève. C'est Dieu qui fait que, de manière assez mystérieuse, on est vivant, on reste vivant, et à un moment donné, on meurt. Et de la même manière, c'est Dieu qui rendra la vie à non pas à ses corps, parce que les corps de ceux qui sont dans les tombes depuis 500 ans, ils sont poussière. Hein, il reste des os. Mais Dieu, depuis qu'on connaît l'ADN, par exemple, oui. On comprend mieux que chaque personne a sa spécificité, et que de par sa spécificité, alors elle aura une taille, une masse musculaire donnée, un visage donné, une couleur d'yeux, un genre, etc. Et aura une place tout à fait particulière, comme ce qu'on peut voir dans un orchestre, par exemple, ou dans une équipe de rugby, ou etc. Autrement dit, dans les collectivités, chacun a sa place, et nous ressusciterons avec les particularités que Dieu nous aura données.
Oui, les corps actuellement font des tombes, sont de la poussière, où il reste des petits os, mais disons, on doit bien, il y a bien quand même de prévu la résurrection des corps.
C'est ça, la résurrection des corps.
Ce sera quand même le même corps.
Oui, mais je pense que le corps sera beaucoup plus constitué par l'ADN que Dieu connaît.
Oui.
Hein, en codant l'ADN, et le corps sera reconstruit, plus qu'en faisant revenir nos muscles qui sont partis. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Alors, Paul dit Dieu, mais Dieu l'a ressuscité, il parle de Jésus, bien sûr, le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Bah, si la mort l'avait retenu en son pouvoir, c'était l'échec de Dieu.
C'était l'échec de Dieu, oui.
Donc, ce n'était pas possible.
Voilà.
Et puis, son plan s'écroulait.
Voilà.
Donc,
surtout que la mort est dans les mains de Dieu.
Et voilà, oui. Hein?
Mais la mort est présentée comme l'adversaire de l'homme, comme quelque chose que l'homme redoute. C'est vrai que pour la plupart des personnes, la vie est un capital qu'il s'agit de préserver, alors que pour le chrétien, il faudrait mieux dire la vie est un capital qu'il s'agit de mettre au profit de l'œuvre de Dieu.
Oui. Et ensuite, donc, c'est l'aspect Père aussi qui intervient, hein, car comme le Père réveille les morts et les vivifie, de même aussi le Fils vivifie ce qu'il veut. Bon, je comprends très bien, le Fils a autant de pouvoir que le Père, mais ce qu'il veut.
Ça montre bien qu'il y aura des gens qui seront vivifiés et pas d'autres. Il y aura dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean, quand Jésus parle de cela, il parle aussi de cette résurrection de ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu. Et il dit qu'il y en a qui ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle. Autrement dit, Jésus donnera la vie à ceux qu'il veut, à ceux qu'il aura choisi. Mais qui est-ce qu'on choisit ? On choisit ceux qui se présentent. Autrement dit, il n'y a pas de prédestination abusive de Dieu dans ce fait de ne pas être choisi, mais Dieu choisit ceux qui se présentent.
Oui, et puis donc il y a aussi l'esprit qui intervient peut-être dans ce phénomène de résurrection.
Voilà, avec cette difficulté, cette complexité de la personne de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est vrai que la résurrection est présentée avec l'esprit comme personne de Dieu qui est un acteur essentiel. Un verset de Romains au chapitre 8. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Donc effectivement, l'esprit a un rôle fondamental.
Oui, et que signifie le verset de Hébreux 6, 2 ?
Alors, ce verset est un verset qui est une est une question problématique pour quelqu'un qui ne le comprendrait pas, donc on va en parler, c'est l'occasion, c'est très bien. Les Hébreux, c'était ces Juifs Avant que la destruction de Jérusalem ne soit faite, et la destruction du temple, c'était ces Juifs qui disaient « Oui, nous croyons en Jésus, et nous croyons que Dieu nous a visités », mais qui restaient dans des rites juifs, et notamment le rite de se repentir tous les ans. Et on a entendu dans les médias, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait le Yom Kippour, le jour du pardon.
Oui.
On a entendu qu'il y avait ce jour tout à fait important pour les Juifs, ce jour du pardon qu'ils font une fois par an. On retrouve ce jour du pardon, Kippour, ça vient de kafar, en hébreu, qui veut dire expier ou pardonner. Et donc ce jour venait dans le calendrier religieux des Juifs, il venait le dixième jour du septième mois. Le premier mois commence à Pâques, donc en mars-avril, ça dépend de quand est-ce qu'arrive Pâques. Et le septième mois, c'est donc, si mars est le mois numéro 3, donc le septième mois, c'est en octobre. Donc le Yom Kippour vient en octobre, en novembre, hein, suivant les périodes. Et donc les Juifs fêtaient le dixième jour du septième mois, ce jour où ils allaient demander pardon. Et donc, il fallait que les Juifs reviennent de manière tout à fait carrée une fois par an. Ils revenaient une fois par an pour demander pardon à Dieu, et ce qui fait qu'ils avaient l'habitude de demander pardon tous les ans. Et donc, si par exemple dans ma vie j'ai fait quelque chose de mal, si je suis habitué à demander pardon tous les ans, alors tous les ans finalement, je vais me dire, de toute façon, en septembre, octobre, novembre, suivant quand est-ce que tombe Pâques, je vais demander pardon. Et dans ce verset de Hébreu, il dit, mais on ne va pas reposer encore les points fondamentaux. Hein, de la doctrine des ablutions, de se laver, hein, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, mais vous avez l'habitude de demander pardon, il est impossible, si on a fait quelque chose de mal, que Dieu nous pardonne une deuxième fois. Voilà le sens de ce passage.
Oui. Et bien, en fait, cette résurrection, en fait, c'est quand même montré dans l'Ancien Testament. c'est disons dans Luc 20, 37, or que les morts ressuscitent, Moïse même l'a montré au titre du buisson quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Alors à l'égard de ce passage, il faut bien souligner que ceux qui viennent à Jésus, pour le contredire, pour l'éprouver, s'appellent les Sadducéens.
Oui.
C'est ce parti un peu philosophique qui ne croit pas ni au monde invisible, ni aux anges, ni à la résurrection. Et donc Jésus leur dit, mais attendez, quand il est écrit, parce que les Sadducéens donnaient quand même un crédit au livre biblique, au récit biblique, il leur dit, mais si Dieu dit « je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est donc qu'ils sont vivants, Dieu est le Dieu des vivants et pas des morts. Et il dit qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants dans la résurrection.
Oui, donc c'est déjà, disons, un commencement de preuve, disons. Oui. Alors ensuite, on dit que c'est dans l'épître de Paul, 1 Corinthiens 15, 4, il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et le troisième jour, ça peut être contesté, parce que s'il est mort le vendredi, le samedi ça fait un jour et le dimanche ça fait que deux. Donc il y a une autre façon de compter trois jours.
Et donc l'autre façon, c'est tout simplement de dire qu'il est mort le vendredi, premier jour,
oui.
Qu'il a passé le dans le tombeau le samedi, deuxième jour, et qu'il est ressuscité le dimanche matin, troisième jour.
Oui, oui. Oui, voilà. Mais c'est peut-être une autre façon aussi de penser, de juive, non, de compter le jour qui a commencé, le
oui.
Vendredi.
Oui, oui, tout
parce
à fait.
Nous, l'habitude, on compte 24 heures.
Oui.
Hein. Non, je dis ça parce que bon, ça s'est rencontré. Hein. Alors, donc, ça a été annoncé, disons, dans l'Ancien Testament, mais Jésus aussi a annoncé sa résurrection.
Oui. Oui, oui, il l'a même annoncé plusieurs fois. Et quand je lis ces textes, je suis un peu compatissant à l'égard des disciples, parce que ça leur faisait des choses à envisager qui étaient très, très loin de leurs préoccupations. Je suppose que les disciples, ils étaient, imaginons la France pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, il y a les Allemands qui sont là, hein, en zone occupée par exemple, imaginons que quelqu'un vienne nous parler de sa mort et de sa résurrection. On va lui dire, écoute, on en parlera quand les Allemands seront partis. Hein, et donc les Juifs étaient, ils avaient un procurateur, un gouverneur romain qui s'appelait Ponce Pilate.
Oui.
Et Pilate était quelqu'un de cruel, hein, il avait fait pas mal d'exactions et les Juifs étaient vraiment en difficulté avec les Romains. Et donc, il y avait par exemple une loi qui permettait aux soldats romains de faire porter son paquetage pendant un mille à n'importe quelle personne juive.
Ah oui, il n'était pas intéressant de rencontrer
un soldat.
Un centurion.
D'où l'expression, si quelqu'un te demande de faire un mille avec lui, va et fais-en deux.
Oui, 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 oui. Ah oui, ça venait de là, oui. Donc Jésus a parlé de sa propre résurrection. Donc c'est un événement qui est annoncé par l'Ancien Testament. On le trouve aussi dans les psaumes, par les prophètes, par Jésus lui-même et dans le Nouveau Testament. Donc c'était vraiment bien prévu. On a le signe, la tangible que c'était prévu dans le plan de Dieu, cette résurrection.
Alors on peut quand même souligner que la résurrection dans l'Ancien Testament n'est pas tellement annoncée. Hein, elle est annoncée dans le psaume 16. Hein, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Et quand David est mort, on a vu que David a été enseveli et donc que son corps s'est corrompu.
Oui.
Et donc, mais la résurrection du Messie n'est pas tellement annoncée. La mort du Messie est annoncée. On a l'annonce dans le livre de Daniel, au chapitre 9 et au verset 25 et 26. On voit qu'il est dit que le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc on voit là le fait des souffrances et de la mort du Messie. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, les souffrances et la mort du Messie sont annoncées. Mais sa résurrection n'est pas quelque chose qui est si évident. Par contre, Jésus parle du signe de Jonas. Hein, vous vous souvenez de Jonas qui a passé trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, comme le seul signe qui serait donné à cette génération, autrement dit à ce peuple, qu'il vient visiter, il dit, il en sera de même du Fils de l'homme. Autrement dit, Jésus a parlé abondamment de sa mort et de sa résurrection, comme vous le soulignez.
Oui. Donc c'est quand même essentiel, bien sûr, oui. Alors cet homme-là donc est rappelé, on vient de le dire. Donc on peut estimer que donc il est vraiment ressuscité. Et pourquoi le chercher parmi les morts? Donc il est vivant comme il l'avait promis.
Exactement.
Voilà. Hein. Puis aussi pour revenir à Jonas et à trois jours, il rebâtira aussi le temple en trois jours. Ça n'a pas une signification aussi?
Voilà. Voilà une autre expression de l'Évangile, hein, Jean chapitre 2. Où il annonce en fait sa résurrection, mais par des choses voilées.
Oui, quelque chose qui surgira.
Voilà. Il parlait, nous dit Jean, du temple de son corps.
Voilà, oui.
Voilà. Tout à fait.
Un autre exemple. Mais alors, c'est quand même une promesse d'espérance pour nous tous, cette résurrection. Hein. Alors bon, c'est une espérance, il ne faut pas le confondre tout à fait avec espoir, parce que l'espoir n'est qu'un souhait, que l'espérance, effectivement, donc, est un don de Dieu. Bien. Et cette espérance est une espérance folle pour les hommes. Comment peut-on être capable de croire qu'un mort est ressuscité? Mais en fait, ça va changer effectivement donc le sens de notre vie. Mais disons, si j'ai employé l'adjectif folle, c'est que Paul en parle, que c'est une folie de croire à cette résurrection.
Oui, effectivement, la résurrection est une promesse de Dieu, mais... on a peut-être un peu de mal à l'envisager, quoique, regardez le rythme des saisons. Et aujourd'hui, quand, par exemple, on récolte du blé, on le mange et après on le met en terre, et le blé ressuscite. Mmh. Hein, il revient.
Pas celui qu'on mange, en tout cas. Les grains qu'on a gardés.
C'est ça, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Donc, quand on met une graine de tomate dans un pot de terre, eh bien, si on met un plant de tomate, on voit que cette graine qui porte en elle la vie est capable de prendre les substances minérales de la terre et donc de diminuer la terre pour faire en sorte que va se produire quelque chose de vivant,
voilà,
et oui, va ressusciter. Donc, la résurrection n'est pas quelque chose de... finalement, c'est quelque chose de coutumier. C'est pas quelque chose d'étonnant. La nature nous enseigne de partout qu'on ressuscite.
Oui, mais c'est tellement commun qu'on n'y fait plus attention.
Exactement. Voilà. Et puis, c'est vrai que les tomates sont les tomates les unes après les autres, mais il n'y a pas de notion d'individualité dans les tomates. Alors c'est que vrai. Pour nous, elle est essentielle.
Oui, alors j'en reviens à Paul qui annonce qu'effectivement, c'est de la folie de croire à cette résurrection. Mais si on n'y croyait pas, tout serait vain, tout s'écroule.
Si on n'y croit pas, il n'y a plus de plan de Dieu, il n'y a plus de personne de Dieu, puisqu'en fait, on ne sait pas comment connaître Dieu. Tout reste confus pour nous. Si on n'y croit pas, il n'y a plus de puissance non plus pour nous motiver, pour nous accompagner, pour faire ce que nous avons à faire. Alors effectivement, la résurrection est un fondement tout à fait absolu pour la foi chrétienne.
Et elle affirme une notion d'éternité.
Elle ouvre sur l'éternité, elle ouvre sur... elle nous montre que finalement, ce que nous sommes en train de faire, même maintenant, vous, Pierre et moi, est quelque chose qui ouvre sur l'éternité. Parce que Jésus est ressuscité, tout ce que je fais en ce moment a une valeur qui est estimée dans la main de Dieu et est quelque chose dont Dieu se servira par la suite.
Alors bon, maintenant, on peut passer à des questions peut-être plus pratiques, hein. On peut rappeler donc quelles sont les conditions pour mériter ou avoir cette vie éternelle. Il faut donc avoir foi en Dieu, voilà, accepter ce cadeau qui est la foi, la grâce que Dieu nous donne, et puis avoir un choix de vie qui soit conforme à l'enseignement de Jésus.
Alors je dirais que pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter le cadeau que Dieu nous donne.
Oui.
Cette acceptation, elle se fait simplement, elle peut se faire par la prière, par le remerciement, par le fait d'écrire dans son carnet « Aujourd'hui, j'ai compris que Dieu m'appelait à accepter son cadeau. Mm-hmm. » Et il y a, en quelque sorte, une main, notre main qui se met dans la main de Dieu et qui scelle et qui marque le fait que nous passons de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du fait de ne pas être enfant de Dieu au fait d'être enfant de Dieu. Une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on n'est plus sous la colère de Dieu. Dieu ne nous reproche plus rien. Dieu ne nous condamne plus. Mais par contre, Dieu nous discipline. Autrement dit, l'accession à la résurrection dépend absolument du fait de devenir enfant de Dieu, mais ne dépend pas du tout de la qualité de notre vie aujourd'hui. Par contre, le comment nous ressusciterons dépend de la qualité de notre vie. Quand nous ressusciterons avec des corbeilles plus ou moins pleines, qui seront les corbeilles des bonnes œuvres que nous aurons faites. Oui. Ces bonnes œuvres seront une récompense. La résurrection avec Dieu, c'est le fait des enfants de Dieu. Mais par contre, les corbeilles plus ou moins vides, c'est le fait des enfants de Dieu qui auront plus ou moins travaillé dans l'œuvre de Dieu.
Oui, et donc c'est un encouragement, une leçon pour les hommes de se dire, bon, il y a quand même cette possibilité pour nous.
Voilà, la résurrection est quelque chose qui nous donne une motivation absolue pour mettre notre confiance en Dieu et être enfant de Dieu, si on ne l'est pas encore devenu, alors de le devenir. Par contre, la résurrection est aussi une motivation absolue pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Et tout ce que je fais peut être utilisé pour l'œuvre de Dieu. Fabriquer une jolie chaise, être compétitif, savoir utiliser une table mixage ou un photocopieur, un ordinateur, ou bien connaître les différents endroits de la ville dans laquelle j'habite, tout cela est utilisable pour Dieu et tout cela trouvera son fruit, son aboutissement dans la résurrection.
Oui, est-ce que c'est quand même, j'en reviens au corps, hein, au corps des ressuscités, on a quand même peu d'informations par la Bible et le Nouveau Testament de ce que ce sera.
Alors cette Jésus description,
dit, on verra plus tard.
Cette description est faite au chapitre 15 de 1 Corinthiens, hein, à partir du verset 40, environ oui. 40. Et il nous est dit, mais voilà, ce que tu récolteras ressemble à ce que tu sèmes. Un peu comme le grain de blé qu'on sème en terre produit des grains de blé. Et donc, on voit par exemple que Jésus-Christ ressuscité a eu un corps, comme Jésus-Christ avant qu'il ne ressuscite. Hein? On voit là une indication donc tout à fait claire à la fois de la résurrection et de ce qu'elle sera, mais après, ce que nous ferons en tant que ressuscité, alors cela reste assez vague et général. Nous savons que dans le royaume, dans ce règne de 1000 ans, où l'Église avec les corps de ressuscité règnera avec le Christ qui sera roi sur Israël et les nations, alors nous aurons des corps de ressuscité, mais d'après ce que dit la Bible, Israël et les nations n'auront pas de corps de ressuscité. Et par exemple, la fin du psaume 101 dit qu'à ce moment-là, qui sera un règne de justice, eh bien le méchant, celui qui porte les caractères du méchant, sera retranché chaque matin, chaque jour.
Chaque jour.
Donc la mort sera encore là, mais pas pour nous.
Oui, disons, dans la deux petites idées, je rajoute, disons, bien, cette résurrection, c'est la fin du règne de la mort, d'une part, et une preuve supplémentaire de la puissance de Dieu. Il n'y a que lui qui peut ressusciter des morts.
Il n'y a que lui qui peut ressusciter des morts, tout à fait.
Et la mort est vaincue, disons, et c'est une victoire sur la vie.
Oui.
Donc, c'est de l'optimisme. Je ne parle pas de la mort physique. Hein.
Voilà, c'est
quand parler. On revient de... à la vie, on parle de la résurrection. Hein. Donc, on revient à la vie et pour vivre autre chose. Donc, mort ou ta victoire, il n'y a pas de victoire du tout.
Voilà, on pourrait dire que la différence entre l'optimisme et le réalisme, c'est que l'optimiste, il souhaite que ça arrive, alors que le réaliste, c'est celui qui met sa confiance en Dieu et qui sait que les promesses de Dieu sont vraies.
Cette résurrection de Jésus est un point, je le disais au début, marquant pour l'humanité, pour l'homme. Mais on peut récapituler, puisqu'on s'approche quand même de la conclusion, des fruits de cette résurrection. Qu'est-ce que ça nous apporte pour tous, à tous?
En premier lieu, je dirais que ça nous apporte cette preuve fulgurante, cette preuve essentielle que Jésus est Dieu. Hein, le début de la lettre aux Romains nous dit qu'il est déterminé fils de Dieu en puissance par la résurrection des morts. Autrement dit, Jésus est Dieu, Dieu a frappé très fort et à nous de l'écouter. Donc je mets ma confiance dans celui qui est mort et qui est ressuscité. Je ne pense pas qu'il y ait de fondement plus solide pour construire sa vie. Jésus est ressuscité, il est donc vivant, il est celui qui me conduit, qui me console, qui me défend, qui me protège, qui me donne la force, etc.
Oui, alors on dit aussi, c'est Paul dans Romains 4, 25, que Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. Mais est-ce qu'il pouvait ne pas l'accepter ? Je ne vois pas très bien ce que veut dire Paul là, dans ce cas-là.
Oui, donc Romains 4, 25, c'est que Jésus est mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Autrement dit, ça montre deux aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. La mort, en fait, pour faire mourir quelque chose qui ne va pas, il est mort pour nos péchés. Et la justification pour rendre juste celui qui ne l'était pas. Mmh. Hein, donc, en faisant mourir, il enlève, et en rendant juste, il habille ou il donne.
Oui, il donne. Hein, voilà. Oui, oui. Bon, et puis effectivement, il y a aussi une mise en évidence de la puissance de Dieu, qui est le Dieu donc de la vie et de la mort. C'est un des fruits aussi de la résurrection.
Hein, on en a parlé. Je dirais à cet égard que si on avait conscience un tout petit peu de la toute-puissance et de la grandeur de Dieu, on ne craindrait jamais. Parce que finalement, Dieu est souverain. Et Dieu a tout dans sa main. Il est puissant, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais le problème, c'est que souvent, cette réalité qui nous est montrée par la résurrection sort un peu de notre périmètre de vision et de ce fait, on en paye les pots cassés.
Oui. Ensuite, on voit quand même que Dieu tient ses promesses. Il y a là la réalisation d'une promesse qui a été faite.
Ce qu'il avait dit,
ce qu'il avait dit, s'est réalisé. Oui.
Il l'a fait. Il est fidèle.
Il est fidèle. Et puis, il y a quand même quelque chose qui se tranche avec la mort et la résurrection de Jésus. Hein, d'ailleurs, Jésus le dit le même le soir de la scène. Hein, il y a la création d'une nouvelle alliance.
Autrement dit, l'alliance que Dieu avait faite avec Noé en Genèse 9, pour toutes les nations, en mettant l'arc-en-ciel dans l'atmosphère, en marquant de son sceau quelque chose de nouveau, ce que Dieu a fait avec les nations, ce que Dieu a renouvelé avec Abraham par la circoncision, par le peuple d'Israël, en disant, eh bien, le peuple d'Israël sera ce peuple par lequel les nations seront bénies. Je bénirai Israël, mais je veux aussi bénir les nations par Israël. Alors Jésus vient, étant le roi rejeté d'Israël, mais renouvelant finalement l'alliance qu'il fait avec les nations. Autrement dit, dans l'Eucharistie, dans la Sainte Cène, Jésus vient renouveler l'alliance. Ce n'est pas qu'il fait une autre alliance, c'est que Dieu veut s'engager de manière collective avec les peuples. Il vient affirmer, en apportant son propre sang, le sang de Jésus-Christ, il vient affirmer qu'il est le garant de l'alliance et qu'il met les nations dans son alliance, en tout cas celles qui voudront être dans son alliance.
Donc ensuite, disons, un fruit de la résurrection pour ceux qui ne sont pas très théologiens, mais qui sont des chrétiennes de base, c'est que c'est une espérance donc, du chrétien d'être justifié, de ressusciter dans la gloire et de gagner l'éternité. Mais pour vous laisser conclure, dès aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez ?
Eh bien, dès aujourd'hui, je construis ma vie sur cet événement. Dès aujourd'hui, j'ai envie de dire, mettez Dieu au défi. Acceptez sa parole, acceptez sa présence et construisez votre vie sur sa puissance, sur la puissance qu'il a manifestée dans la résurrection et vous en verrez vous-même les effets. Dès aujourd'hui, je souhaite construire ma vie sur la puissance de Dieu également dans mes états d'âme, dans ce que je peux vivre intérieurement. Dieu a montré sa puissance, Dieu me montre sa puissance, je veux vivre avec lui, comprendre que je suis en paix, réconcilié, que je suis capable maintenant de faire ce qu'il me demande. Et ça, c'est à nous d'en tenir compte.